Les folies du parc, interview. Alexandre Chevillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge de l'énergie au parc naturel régional des Grands Causses et dans le cadre des folies du parc, vous organisez plusieurs choses, à commencer par une exposition sur l'énergie. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette exposition ?
Alors c'est une exposition de panneaux hein, sur l'énergie dans le parc et l'idée c'est de voir un petit peu la situation énergétique du territoire du parc. Il se dit beaucoup de choses sur l'énergie, certains annoncent des chiffres, nous on a eu l'occasion de mener une étude qui apporte vraiment des chiffres sur la consommation d'énergie du territoire dans tous les secteurs d'activité, quel type d'énergie on consomme et surtout ce qu'on produit, et, venez la découvrir et vous serez étonné des résultats.
À côté de ça, donc, vous organisez aussi des ateliers. Alors, il y a des cafés bilan carbone qui se déroulent, je crois, toute la journée du dimanche, de 10h à 18h. Alors, en quoi ça consiste, ces cafés bilan carbone ?
Alors, ces cafés bilan carbone sont organisés par une association aveyronnaise, l'association Canopée. Et l'idée, c'est de travailler avec Canopée sur un ordinateur pour comptabiliser un petit peu ces émissions de dioxyde de carbone et pour voir quel impact a notre foyer, notre famille sur l'environnement. Et ça permet après, et vous aurez l'occasion d'en discuter avec les membres de l'association Canopée, de réfléchir à des pistes pour diminuer son impact environnemental dans les différents domaines, le chauffage, l'électricité, les transports, l'alimentation, les achats, etc.
Et enfin, vous proposez la projection de films suivis de débats. Ils vont tourner autour de quel thème, ces films ?
Alors, ça ne sera pas des films en entier, hein, ça sera plus des extraits de films, des petites séquences de films autour de trois axes. Déjà sur la crise énergétique et sur la crise climatique, donc les deux premiers axes. Mais pour ne pas rester sur un constat très dramatique, on abordera surtout la question, et c'est ça l'intérêt du défi énergétique à venir pour demain, pour les prochaines années. Et ça sera l'occasion justement d'instaurer un débat entre les participants à cette animation.
Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Eh bien, venez nombreux au pôle énergie, donc, qui se trouvera à l'intérieur du fort de Saint-Jean-d'Alcas le dimanche 9 septembre.
Merci Alexandre. Samedi, les Folies du Parc vous proposent un spectacle intitulé « Tomber de la Lune » avec l'association Hold Up. Il s'agit d'une soirée cinéma muet accompagnée en live du trio de Roberto Tricari, compositeur, musicien et chef d'orchestre. Roberto Tricari travaille depuis les années 80 sur l'alliance entre la musique et le cinéma muet.
Je poursuis depuis maintenant plus de 30 ans, hein, ce que je nomme le jeu amoureux de la musique et de l'image, sur un terrain d'aventure qui est assez magnifique, en tous les cas sans limite, concernant la production du cinéma muet d'époque, hein, jusqu'à dans les années 1930. C'est un terrain d'aventure parce que tout a été inventé à l'époque, au niveau des genres de films. Tout existait, sauf que la parole n'était pas là encore. Elle n'avait pas été apprivoisée techniquement pour être restituée avec suffisamment de précision. Et c'était une époque où la musique était vraiment une maîtresse exigeante de l'image, ce qui l'est moins maintenant, on va dire. Encore qu'il existe de grands compositeurs, toujours évidemment, bien sûr, mais à l'époque la parole n'était pas là, donc c'était vraiment une histoire de couple. Et moi j'ai retrouvé cette histoire d'amour, de couple, à travers ce principe de création un peu singulier qui est le cinéma muet en concert.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le spectacle Tomber de la Lune ?
Alors Tomber de la Lune, c'est un hommage à l'acteur Harry Langdon. Alors c'est un acteur peu connu, il a eu un succès assez fulgurant à l'époque, il a été vraiment à l'égal de Keaton, de Chaplin, mais il a commencé assez tardivement ses réalisations cinématographiques, donc dans les années 26, alors on n'est pas loin de l'avènement du parlant. Donc il n'a réalisé que trois longs métrages importants, dont Tramp, 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 ce film qui est l'ossature de cette soirée Tombée de la Lune. Alors, pourquoi Tombée de la Lune ? Parce que le personnage de Langdon, il a créé un personnage extrêmement singulier, qui est une espèce de superposition obstinée de l'enfant sur l'adulte, et avec une déclinaison de l'action et des gags basés sur une forme de lenteur, ce qui est vraiment étonnant. Parce qu'en général, le cinéma slapstick, burlesque, c'est au contraire, hein, ça va très vite. Et là, il y a cette espèce de lenteur qui dégage alors une poésie incroyable. Et alors en plus, Tramp, Tramp, Tramp bénéficie d'un scénario de Frank Capra, avec pour la première fois la belle Joan Crawford, hein, dans son premier rôle à l'écran. C'est vraiment quand même c'est vraiment étonnant. Une réalisation d'Harry Edwards. Et voilà, Tombée de la Lune, parce qu'on a vraiment un Pierrot lunaire qui nous semble un petit peu un petit prince arrivé de je ne sais pas où. Et Tombée de la Lune, et c'est cette bouille ronde, toujours un petit peu interloquée et en même temps avec des actions très déterminées pour arriver au but ultime qui est de séduire la femme qu'il aime. Alors Tramp, 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 c'est tout l'intérêt de ce film, c'est que d'abord il est excessivement rare. Et puis, alors, moi, sur chaque... ce qui m'anime, en fait, c'est, quand je parlais d'aventure tout à l'heure, c'est que je n'ai pas un orchestre défini, ni même un style que je défends particulièrement. J'aime beaucoup de choses, il y a des choses fort différentes. Et le cinéma muet me permet justement d'expérimenter des aventures très différentes. J'ai fait, par exemple, un film qui s'appelait « La Sultane de l'amour ». Avec un magnifique orchestre orientaliste, donc on était en octuor, quatre musiciens orientaux et un quatuor à cordes. En passant par une magnifique création avec Anna Chigula autour du cinéma cabaret allemand de Berlin. Voilà, c'était sur le journal d'une jeune fille perdue de Paps, et le spectacle s'appelait Elle, Louise Brooks. Et Anna était avec nous sur scène et proposait une espèce de voix intérieure un peu à chaque spectateur. Donc une ouverture du rapport émotionnel qui dépassait largement le simple cadre de l'image. Et jusqu'à des choses extrêmement modestes, en duo par exemple. Et donc tout ça pour dire qu'à chaque film, j'ai un orchestre différent.
Et là alors justement, vous êtes un trio.
Alors oui, pour revenir sur Tombée de la Lune, voilà, en fait, quand je choisis un film, quand j'ai un coup de cœur pour un film, qu'il me propose une partition, on va dire, émotionnelle avant d'être musicale, d'être traduit en notes, il est essentiel pour moi de créer l'orchestre dans sa composition instrumentale, voire même dans le choix des musiciens. Et donc là, cette dimension poétique d'Harry Langdon, pour moi, a imposé d'évidence un violoncelle. Mais alors, un violoncelle, c'est un jeune violoncelliste, Maxime Dupuis, voilà, qui joue sur Toulouse et Montpellier, qui a une technique classique sans faille, mais pour autant qui est vraiment dans une recherche de musique actuelle. Et voilà, c'est donc la présence, le son, la poétique du violoncelle, en même temps avec quelque chose de beaucoup plus incisif, parce que ces jeunes musiciens sont, on va dire, sans vergogne. C'est-à-dire qu'ils sont assez libres, quoi. Ils sont débarrassés un petit peu des héritages un peu lourds, des images qu'on doit défendre à travers sa propre musique. Et ça, c'est important, la présence du violoncelle. Derrière ça, il y a évidemment, je dirais évidemment, parce que le film n'a pas pris une ride, 1926, il y a une modernité incroyable, intacte. Et dès qu'on met... alors ça, c'est un complice de longue date, Jean Mac, qui joue des quatre saxophones, clarinette basse, flûte traversière, ça. Bon, la présence du saxophone emmène immédiatement une modernité, rien que par la sonorité, le timbre. Et puis, piano, évidemment, puisque je suis pianiste, mais je suis aussi accordéoniste, étant fils d'Italien. Et donc, voilà, le piano va essayer de faire respecter les bonnes manières dans ce trio un peu échevelé. Mais tout ça étant Et ça, c'est moi, c'est une de mes priorités, étant au service de l'image. C'est-à-dire que quelquefois, être au service de l'image, ça peut vouloir dire faire trois notes un peu bluettes, un peu insignifiantes, si la scène le demande. C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu sous le mouchoir des histoires d'ego, de compositeurs, etc. C'est très écrit, hein, quand même. Dès qu'on est en trio, il faut que ce soit relativement écrit, même s'il y a des passages improvisés. Le trio va rejoindre cette forme de candeur, de poésie, et en même temps d'impertinence, parce que c'est quand même une comédie, hein, on rit beaucoup, on est très ému, mais on rit beaucoup tout au long du film, avec des gags ciselés par Frank Capra. Voilà, un éloge de la lenteur, par exemple, il y a une scène où on a fait ingurgiter à Harry des somnifères, on a un plan fixe sur son visage, pendant presque 2 minutes où il lutte contre le sommeil. Alors ça, c'est un plan extraordinaire, parce que ça n'existe plus aujourd'hui.
J'aimerais en revenir à votre travail de compositeur. Comment est-ce que vous procédez pour composer une musique qui va avec le film ?
Alors, voilà, comme je le disais tout à l'heure, d'abord naît l'orchestre. Alors, j'aime bien cependant m'entourer de musiciens plutôt multi-instrumentistes. Mais enfin, voilà, l'orchestre est là. Et puis, alors après, je pioche tout au long du... Je ne travaille pas dans un ordre chronologique. Je pioche des scènes pour lesquelles j'ai des évidences qui me semblent vraiment intéressantes. Parce que, en fait, la question de la présence de la musique, encore aujourd'hui, hein, de la présence de la musique sur l'image, c'est qu'elle a toujours un parti pris. Même celui de l'indifférence. Parce que, en fait, la musique sur l'image, au cinéma, est extrêmement puissante. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne s'en rend pas vraiment compte. C'est-à-dire qu'au moment où l'œil capte cet écran qui s'anime et qui propose une captation relativement plausible d'une réalité, d'une histoire qui se déroule, au même instant, en fait, dans l'oreille, arrive la bande-son. Et à notre insu, finalement, la bande-son nous propose une vision de cette image. Elle propose vraiment, elle peut proposer même une focalisation sur un personnage. Je le fais avec des enfants, je m'amuse à changer les musiques et tout ça. Et c'est étonnant, parce que les mêmes scènes peuvent raconter des histoires différentes. Et donc, y a vraiment quelque chose de très puissant. Donc, alors, le parti pris quand je commence à composer sur une scène, certaines scènes dans un film me semblent évidentes. Et puis, j'avance en morcelant comme ça, et finalement, il y a aussi un fil, évidemment, de cohérence qui doit parcourir tout le film, puisqu'il m'est arrivé assez souvent d'avoir composé une scène, d'être très content de cette composition. Et finalement, quand tout se rassemble, ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après fait que ce qui existe là ne marche plus du tout. Je parlais de la sultane de l'amour tout à l'heure, c'est un exemple qui m'est resté en mémoire. Lorsque Malik, l'affreux, le méchant guerrier du sultan, vient enlever la princesse Jaoula, j'avais composé une musique assez inquiétante et tout ça, et ça ne marchait pas du tout. Finalement, ce qui a fonctionné, c'était l'immense beauté de la nuit, la lune. Et donc j'ai écrit finalement à ce moment-là une chose extrêmement douce et mélodique, et cette respiration arrivait de manière extrêmement belle et forte et intéressante.
J'aimerais en revenir un peu à vous, comment vous en êtes arrivé à faire ce métier compositeur sur de la musique de films muets.
Ben moi je travaillais à l'époque avec un spectacle de théâtre clownesque. C'était la compagnie Philippe et Marie-Paul Goudard. Le spectacle s'appelait Motus et Payas Clown. On a tourné dans le monde entier avec ce spectacle. Et c'était finalement un spectacle proche du cinéma muet. Il y avait très peu de paroles, que quelques grommelots. C'était très gestuel. Et puis, un jour, on arrive dans un théâtre et le directeur, sans même nous en avoir prévenus, avait prévu la projection d'un film muet, d'un court-métrage. Mais alors quelqu'un a dit, mais il y a un piano, il y a un pianiste, pourquoi pas? Et on a fait comme ça, on a tenté le coup. Et moi, j'ai ressenti vraiment quelque chose d'extrêmement fort sur ce qui s'est passé là. Parce qu'en fait, le dispositif cinéma-concert est une chose très étonnante. Il y a une dimension que je n'arrive pas trop à expliquer, de l'ordre, une dimension magique, du fait qu'il y a la présence de la musique vivante, qui est extrêmement discrète, mais en même temps très puissante, de simplement le fait de voir des musiciens un peu bouger, jouer, et ces musiciens ne sont pas comme dans un concert, enfin moi en tous les cas je me place comme ça, même quand on est 8 ou dans des formations importantes, on regarde l'écran. C'est-à-dire qu'on est dans la continuation du regard du spectateur. On n'est pas frontalement, je ne vais pas dire opposé, mais positionné face au spectateur. Donc il y a une espèce de fluidité, une triangulation qui se passe entre le spectateur, l'orchestre et cette vibration de l'écran de ces films un peu particulières, hein, qu'on n'a pas vraiment retrouvées. Peut-être Pierre Etex est allé vers cette filiation-là. Mais donc il y a une image un peu singulière quand même de ces vieux films. Et ça développe une dimension d'envergure incroyable au niveau émotionnel. Et moi, ça fait donc plus de 30 ans que je pratique cet exercice et j'en ai eu vraiment beaucoup de témoignages. Une forte émotion qui se dégage. Et alors c'est étrange parce que prenons l'idée que la musique que j'ai écrite soit enregistrée sur le film, ça ne marcherait pas. Ça marcherait peut-être, mais à la limite. Donc c'est une question importante parce que par rapport à la question de la composition de la musique, c'est vrai que je me positionne toujours en fait par rapport à cette idée-là que la musique n'est pas enregistrée et que si elle devait l'être, peut-être je composerais autre chose. En fait, au bout du compte, pour moi, le cinéma-concert, c'est un spectacle vivant.
Et votre interprétation de la musique sur un même film, elle est toujours la même ou il peut arriver qu'il y ait des accidents, qu'il y ait quelque chose qui change
Alors maintenant, moins, parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les projections sont de plus en plus numériques. Mais par exemple, rien que ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on projetait en 35 mm, comme dans les cinémas, quoi, il n'y a pas un projecteur qui tourne à la même vitesse. Alors déjà, d'entrée de jeu, ça pose une attention de la part des musiciens et puis quelque chose d'assez aléatoire forcément par rapport au top, au timing et autres synchronisations à l'image. Et puis après, c'est vrai que la salle, voilà, c'est pour ça que je défends cela comme un spectacle vivant, c'est-à-dire que on est finalement un passeur d'images musicales, musiciennes. Et donc, selon l'acoustique, selon ce qui se passe, selon le nombre de publics, on a tendance vraiment à interpréter assez différemment quand même. Ouais.
On pourrait en discuter encore très longtemps, je crois. est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Eh bien, je vous invite à venir voir ce film, Trempe, 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 dans ce programme que j'ai intitulé Tomber de la Lune, parce que ce sont des films rares. Des films très rares, et il y a là la possibilité d'un partage d'une émotion et d'une poésie qui, cela fait beaucoup de bien par où ça passe.
Tomber de la Lune, c'est samedi à Saint-Jean-d'Alcasse, sous le grand chapiteau des Folies du Parc, et ça commence à 21h30.